Alors, Anki Bilalbe, bonjour et
Bonjour.
merci d'avoir accepté donc cette rencontre, quelque peu insolite vu que ça se passe par vidéo et pas physiquement. Donc, on vous présente plus vraiment tant vous êtes connu, mais je vais quand même essayer brièvement de faire une petite énumération, au moins pour vous situer votre personne. Donc, vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous êtes auteur-réalisateur de 3 films, il me semble. Vous êtes aussi artiste peintre, mais aussi artiste dit plasticien. Vous avez également créé des scénographies pour le ballet, pour l'opéra, pour le théâtre et pour des expositions aussi de peinture. Et vous avez donc participé aussi à une biennale d'art contemporain, celle de Venise en 2015, où vous y présentiez une sorte de structure, une installation dite immersive aussi, qui jouait sur un environnement sonore avec des projections vidéo. Là, cette fois-ci, on va parler d'un livre, donc de votre première incursion dans le milieu littéraire à proprement parler, en fait, celui de l'édition, et donc du coup qui se nomme Nu avec Picasso, donc aux éditions Stock, et dans une collection qui s'appelle Manu au musée. Alors, pour faire très bref, en fait, cette collection, elle est dirigée par Alina Gurdiel, et son ambition, c'est d'inviter des artistes à séjourner, enfin, pendant une nuit, à en faire l'expérience, voilà, dans un musée. Donc, une expérience assez singulière, et qui se trouve être, je pense, le fantasme de beaucoup de personnes aussi. Et donc, voilà, ma première question, ce serait assez simple. J'aimerais vous demander comment s'est faite justement cette proposition, et surtout, vous, comment vous l'avez reçue? Est-ce que c'était un oui catégorique? Est-ce que c'était suivi de quelques hésitations, peut-être de réticences, ou au contraire, c'était là encore un vœu qui allait se réaliser, peut-être?
Alors, c'est effectivement la directrice de collection et qui est l'initiatrice de cette collection chez Stock, donc Alina Gurdiel, qui m'appelle un jour et me propose de passer une nuit au musée Picasso en disant, voilà, le principe, c'est une carte blanche, donc tu acceptes de passer la nuit, tu en sors une matière qui t'appartient, tout à fait libre, et tu écris un livre. Voilà. Je dois dire que je n'ai pas hésité longtemps. J'ai quand même demandé quel était le type d'exposition qu'il y avait à ce moment-là, ou dans les mois qui venaient, et elle m'a dit Guernica. Alors Guernica, évidemment, ça a fait pencher encore plus la balance vers le oui. Picasso, alors le musée Picasso, en fait, c'est celui qui a reçu les premiers auteurs déjà. Hein. Avant moi,
Oui.
il y a eu déjà Kamel Daoud, il y a eu Lydie Salvaire, il y a eu ensuite Christophe Honoh-Dibio et Adèle Abdessemed
Ouais.
aussi. Hein. Et donc, ça aussi, ça me plaisait, ce côté un peu transmission, voilà. Je savais que j'allais devoir dormir sur un lit de camp en toile, et ce lit de camp, en fait, c'est le lit de camp que chacun aura occupé le temps d'une nuit. Donc il y a une espèce de transmission comme ça, d'un lieu. Alors ça m'a plu aussi. Donc le oui a été assez 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 franc et massif d'emblée, hein.
D'accord.
Voilà, donc moi, j'aime beaucoup quand il y a cette idée de challenge, un peu. On ne sait pas trop où on va, mais l'idée d'écrire, c'est quelque chose que je pratique déjà. Voilà, l'écriture, je la pratique. On la sent moins dans une bande dessinée, dans un livre. Mais un livre comme Sommeil du monstre, ou Animals, ou Julia et Rome sont des livres très, très, très écrits. Donc, je me sentais absolument à l'aise par rapport à ça. Et donc, je dis oui. On va dire un mois et demi après, je me mets à écrire. Parce qu'Alina m'appelle en me disant, est-ce que tu as commencé à écrire? Alors là, j'ai commencé à lui dire, on va se mettre d'accord sur des délais, etc., des trucs un peu techniques. Et l'écriture a commencé à ce moment-là. Mais après, on peut parler aussi, évidemment, de la manière dont s'est passée cette nuit.
Oui, voilà. Et juste aussi en amont, une fois que vous avez accepté, est-ce que vous êtes muni de tout un corpus, on va dire, d'essais, de biographies, de monographies sur Picasso, ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes dit, mais je vais au musée avec déjà peut-être les connaissances que j'ai déjà acquises par ailleurs, et comme ça, j'en fais réellement une expérience in situ avec mes propres appropriations des œuvres, et comme ça, je ne suis pas dirigé par quoi que ce soit comme littérature analytique, tout ça. Enfin,
Exactement ça, vous avez absolument raison, c'est la deuxième situation. Refus total, effectivement, d'aller voir, parce que ce que je connais de Picasso, je le connaissais, donc refus total d'aller me documenter, d'aller essayer de comprendre, d'aller essayer de me nourrir de quelque chose qui, de toute façon, m'aurait brimé, m'aurait enlevé toute une part de liberté, toute une part Parce que l'idée que je me faisais de cet exercice, c'était aussi cette grande liberté. La notion de carte blanche est vraiment quelque chose de très excitant dans ce moment-là. À ce moment-là, d'ailleurs, au moment où j'ai dit oui, je savais même que je ferais un livre de moins de 100 pages.
D'accord.
J'écrirais quelque chose d'extrêmement compact. J'étais sur l'idée d'une écriture très compacte. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je ne pensais qu'à écrire. Je voyais un petit livre... c'est Alina qui, au bout d'un moment, m'a dit « Mais ce serait peut-être pas mal qu'il y ait quelques dessins, etc. » Alors, je lui ai dit « Attends, je t'arrête tout de suite. Je vois le genre, voler des dessins pour que ce soit plus attractif, etc. etc. » Je plaisantais, évidemment. Elle avait tout à fait raison parce que, en fait, la compacité de l'écriture nécessitait aussi une espèce de redynamisation de l'ensemble. Et le dessin, à ce moment-là, j'ai senti qu'il pourrait être ça. Un dessin très simple au crayon, un peu dans l'esprit d'ailleurs Picasso du meurtre, le dessin qu'il y a dans l'exposition, et également Guernica, qui est une œuvre absolument magistrale, monstrueuse en taille aussi. C'est une œuvre picturale au trait, donc le trait convient parfaitement à cet exercice.
Donc en fait, ouais, vous avez les dessins, donc du coup, qui jalonnent tout ce livre, ont été faits après. Vous n'avez pas, pendant l'expérience, un petit crayon, un petit calepin Non.
Non, pendant la nuit, la nuit, c'est en deux mots, hein, j'arrive évidemment en fin de journée, le soleil n'était pas totalement couché, donc je pénètre dans ce musée, il n'y a personne, il y a les deux gardiens que je vois à peine, ils disparaissent, je ne les verrai pas de la nuit. La nuit tombe, les lumières se tamisent, et ça, c'est très, très agréable et très important. Donc, je suis dans le musée Picasso, au moment de l'exposition Guernica, avec toute une part très pédagogique hein, sur la période des années 30, la situation de l'Espagne, la montée du fascisme, etc. Et donc, tout ça, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Il y avait des vidéos aussi qui proposaient des images de cette période. Et donc la lumière tamisée ajoute au mystère une forme de fantasmagorie. Alors je passe ma nuit, évidemment, j'ai un repas qui est prévu, hein. Il y a ce lit de camp qui est le long d'un mur, il y a une petite table avec un plateau repas, tout simple. Grosse déception, je n'avais pas du tout pensé à ça, j'aurais dû amener une bonne bouteille de Bordeaux. Et de Bordeaux, c'est vraiment sympa parce que je suis avec vous et sur Bordeaux que je voulais vraiment. J'aurais dû prendre du Bordeaux, c'est l'un de mes vins préférés. Et malheureusement, donc je sais pas. Et en fait, je me suis retrouvé avec une bouteille en plastique d'eau. C'était un peu décevant, mais c'est pas grave. J'ai affronté cette nuit avec beaucoup de curiosité, hein, et je me suis laissé porter. Alors je m'allongeais sur ce lit de camp où il était absolument impossible de dormir. Je me relevais, j'ai dû somnoler peut-être 20 minutes, 2-3 fois, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, très souvent, je me relevais, j'ai fait énormément de photos.
D'accord.
Et je pense que j'ai énormément engrangé de choses. Je découvrais des choses un peu au fur et à mesure aussi, pas d'un coup. Donc, je ne voulais pas tout explorer. Je me laissais des zones comme ça à découvrir au cours de la nuit. C'est comme ça que je suis tombé assez tard sur le dessin du meurtre de Marat par Charlotte Corday. Je ne connaissais pas ce dessin, il est d'une grande violence, d'une grande simplicité, un dessin au trait, à l'encre de Chine, à la plume. Et ce dessin m'a impressionné, je pense, au point de ressurgir un mois et demi après, lorsque je me suis mis à l'écriture, sous forme d'une séquence très importante dans le livre.
Ouais. Et alors justement, maintenant, pour passer vraiment dans le livre, on va dire, donc le récit commence, bon, vous êtes saisi par une main, elle vous projette ou vous propulse dans le musée. Donc là, il fait noir, il ne se passe rien, il y a du silence, il y a une odeur, et vous percutez une sculpture en bronze. Là, vous tombez dans les pommes, vous vous relevez, et là, on pourrait dire que commence une sorte de périambule un peu hallucinatoire, ou une sorte d'aventure, ou semée de mésaventures. Et vous dites d'ailleurs, enfin, vous ne le dites pas dans le livre, mais vous l'avez dit par ailleurs, une sorte d'errance fantasmagorique, un peu, où, donc il y a cette question de l'errance. C'est bien que nous, on se demande si ça va être vrai, ce qui va être raconté ou pas. D'ailleurs, à plusieurs endroits, vous dites à un moment, voilà, ma bosse fait si mal qu'elle semble vraie. Donc du coup, si elle semble vraie, c'est alors qu'on se doute qu'elle est fausse. Après, vous vous dites un peu plus loin, comme tout ici ne semble pas être, et moi en priorité, je ne suis pas. C'est ça la réalité, ici je ne suis pas. Et en fait, donc directement, on se dit ça va être une fiction. Et là où d'autres personnes auraient peut-être privilégié le témoignage strict ou dire voilà, j'ai vu ça, j'ai fait ça, ça m'a fait penser à ça. Là, du coup, vous prenez directement d'assaut le lecteur, vous dites, bon, ici, il n'y a rien de réel, à part certaines choses, effectivement, mais ce sera de la fiction. Alors, pourquoi ce choix, justement ?
Parce que d'abord, je n'avais pas envie de faire de la pédagogie. Je n'avais pas envie de dire, voyez, c'est comme ça, le musée. J'avais envie de sensorialité. Alors, vous l'avez dit, hein, l'odeur, dès le début, il y a quelque chose de sensoriel dans l'écriture aussi. Lorsqu'on est perdu quelque part, lorsqu'on ne voit pas bien les choses, lorsque les choses sont diffuses, il faut s'accrocher aux autres sens que l'on a, donc l'odorat, le toucher. Et donc ça m'est apparu comme un élément important. Et en même temps, un élément perturbateur et perturbant pour le lecteur. Et je souhaitais, évidemment, perturber le lecteur. Alors, effectivement, le faire croire, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça n'est pas vrai, très vite, on comprend que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'à un moment donné aussi, je me retourne, je reviens vers la femme, la dame au vase, avec ce bras démesuré, c'est une femme absolument monstrueuse à la Picasso. Hein. Et lorsque je touche son bras en bronze, je me rends compte qu'elle est, c'est une peau assez douce, légèrement duveteuse, et qu'il semblerait même qu'elle ait un peu de température, qu'elle soit à 37,8. Bon, donc on est vraiment dans cette volonté permanente de déstabiliser, parce que moi je souhaitais l'être quelque part, je m'amusais de la situation, et en même temps je dis un certain nombre de choses vraies que je pense sur Picasso. J'y amène évidemment des éléments perturbateurs, on en parlera aussi. Il n'est pas seul, parce que Picasso est là à un moment donné, il apparaît. Il y a Dora Maar qui est là aussi, et puis il y a un invité surprise, mais qui n'est pas invité. Apparemment, il vient souvent. Hein, il vient souvent hanter les parages où se trouve Picasso. Je pense que c'est l'invitation à l'envie de Picasso. D'ailleurs, c'est cet invité, c'est Goya. Il vient d'un siècle encore plus lointain. Donc tout ça, c'est je mets en place comme ça une espèce de situation déstabilisante, dérangeante, mais de laquelle vont sortir beaucoup de choses réelles et vraies. En même temps, je me permets de tricher, de jouer avec les mots. Le meurtre dont j'ai parlé, de Marat par Charlotte Corday, à un moment donné, effectivement, le lit dans lequel je suis allongé, ce lit de camp, en fin de compte, c'est finalement une baignoire. Et je me rends compte que je suis dans une baignoire et que je suis Marat. Moi-même, que je baigne dans un liquide de médicamenteux, hein, parce que Marat, alors là, j'ai été voir quand même pour Marat, je ne savais pas qu'il avait des problèmes de peau, mais une grave maladie de peau. Donc j'amène des éléments de réalité dans cette fantasmagorie. Et lorsque, par exemple, le Charlotte Corday apparaît, en brandissant un couteau de 70 cm de long, un long couteau donc, tout naturellement, je glisse vers la période de la nuit des longs couteaux de Hitler. Ouais. Et c'est la même période. C'est la période 2-3 ans avant que Picasso ne peigne le tableau. Donc voilà. Et c'est un aller-retour comme ça entre le réel, l'historique, le fantasmé et l'absurde. Parce qu'on est nus en plus, tous les trois.
Oui, voilà, ouais.
Tous les quatre même.
Oui, justement, il y a des apparitions, des disparitions. Ça fait penser justement à un conte un peu à la Théophile Gautier, où des personnes sortent des tableaux, viennent hanter les vivants, tout ça. Il y a un petit côté aussi Lautréamont, avec des choses insolites qui se déplacent, qui se placent entre eux. Et en fait, tout ce côté surréaliste, en plus des anecdotes historiques que vous citez, du coup, à l'intérieur, c'est volontaire. Du coup, c'est vraiment histoire de dire aussi, on est dans les années 1930, c'est une période surréaliste. Picasso, bon, n'est pas surréaliste, mais il est quand même à sa manière. Il y a Hitler qui est pas très loin. À un moment, il y a un dessin
avec Staline. Enfin, il est surréaliste, mais il est, hein, Hitler aussi est surréaliste à ce moment-là.
Oui, d'une certaine façon, oui, c'est ça, voilà. Et donc, ce sont des éléments, en fait, vous vouliez aussi raconter l'histoire des années 30 à travers la figure de Picasso. Ou pas.
Non, je voulais pas la raconter, mais j'étais obligé de la raconter d'une certaine façon. Donc, de positionner aussi Picasso là-dedans, dans cette histoire. C'est aussi parce que forcément, s'attaquer à une œuvre pareille, qui est un peu une commande, hein, on lui suggère de créer, c'est un engagement. Pour lui, ça marque un engagement réellement à fond contre le fascisme, bien sûr, et donc pour le communisme. Donc il devient, c'est à ce moment-là qu'il va... Je ne suis pas un spécialiste de Picasso et je ne le serai jamais. Et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, ça m'a intéressé comme point de vue et comme point d'entrée. Et c'était absolument inévitable. Il fallait que ce soit marqué comme ça. Et puis finalement, à ce moment-là, je me retrouve avec effectivement Picasso, artiste engagé par... par Guernica, je me retrouve avec Dora Maar, artiste que moi je respectais beaucoup et qui je trouve a été un peu mise sous les teignoirs par Picasso lui-même, donc je lui en veux un peu. Et c'est l'homme qui faisait pleurer les femmes quand même, hein, je le dis plusieurs fois, il a beaucoup peint de visages de femmes qui pleurent. Et puis il y a Goya. Alors Goya, donc tout, on se trouve tous un peu dans cette idée de l'engagement de l'artiste. Et la nudité, c'est un peu ça aussi. C'est une forme de pureté. Alors, c'est une nudité absurde, abstraite. Voilà, est-ce qu'elle est réelle ou pas, cette nudité? Mais il semblerait que oui. Et donc, on est mis à nu face à la création, face à l'engagement. Et je pense que c'est l'état d'esprit d'un artiste quand il essaye de se mettre en phase avec un sujet. Et puis, il y a l'histoire du dehors et du dedans, c'est du ça. Dedans et du dehors. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, c'est les premiers mots, cette main qui me propulse, que je ne vois pas, parce que c'est une main qui sort d'on ne sait où, parce qu'à 50 mètres à la ronde, autour de moi, il n'y a pas âme qui vive, c'est ce que je dis d'emblée. Donc, d'où sort cette main, qui est en plus assez désagréable, qui a une odeur nauséabonde, enfin bon, bref. Et donc, voilà, de ce moment-là, je savais que venant du dehors, j'entrais dans un dedans, et là, tout d'un coup, j'arrivais à c'est une réalité pour moi dans mon esprit. La création, c'est ça. C'est une confrontation entre le dehors qui d'abord nous imprègne, et ensuite le dedans qui expulse l'œuvre. Donc c'est un peu, et ça rejoint l'engagement politique des artistes.
Oui, c'est ça. Voilà, je voulais justement vous parler de cette théorie ou ce concept un peu de dehors dedans, parce que voilà, à un moment vous dites le dedans de l'artiste digère le dehors, le façonne et le recrache. Un peu plus loin aussi, enfin c'est vraiment un fil rouge effectivement quand vous dites, enfin du début jusqu'à la fin. Un peu plus loin, vous dites aussi, vous répondez justement à ces personnes qui sont nues et qui vous jaugent un peu, qui vous regardent, et vous dites, je vous transmets vous. Le rôle des artistes, c'est de transmettre les crachats des uns et des autres. Et effectivement, comme vous faites appel à l'histoire aussi à certains moments, on pense tout de suite à l'héritage en fait. Un artiste, effectivement, il n'est jamais neuf, il est plus à la suite d'autres artistes. Est-ce que c'est ça justement que vous vouliez dire aussi derrière, parler justement de la création de l'artiste dans votre expérience avec Picasso?
Exactement, c'est le sujet s'est greffé tout naturellement hein, dans le déroulement de l'écriture. Et donc, c'est une histoire d'artiste à la limite. Le premier qui a craché, c'est celui qu'on a vu dans les grottes de Lascaux. Hein. Peut-être que c'est lui qui a été le premier à transmettre. Et donc l'idée de la transmission, moi j'y crois vraiment, c'est naturel, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la culture et la mémoire. Donc on est forcément confronté à ça. Le danger aujourd'hui d'ailleurs est que la culture s'affaiblit et la mémoire aussi. Donc on est dans un vrai moment charnière, je pense, y compris dans l'histoire du monde. C'est assez inquiétant, mais c'est comme ça. Et donc ça, c'est aussi pour ça que je voulais affirmer ce lien qui nous unit, puisque là finalement on est quatre à être nus, à poil, dans ce musée. On est quatre artistes et chacun a transmis à l'autre quelque chose. Ce qui ne m'empêche pas aussi de jouer sur le fait que l'admiration pour Goya de Picasso n'a pas la réciprocité. À mon avis, Goya n'admirerait pas autant que ça Picasso. Et ça, je m'amuse à le dire, à le suggérer, parce que ça me paraît plausible. Mais c'est une situation évidemment qu'on ne pourra jamais vérifier. Et donc, ces éléments-là qui sont là en permanence dans l'écriture sont là aussi pour détourner, détendre, faire sourire et créer une forme de distance aussi avec l'expérience.
Parce qu'effectivement, vous parliez de Goya et le fait qu'il n'aurait pas regardé Picasso d'un bon oeil. Parce que c'est vrai que vous le malmenez en quelque sorte, ce Goya, ce pauvre Goya. C'est une apparition, il arrive, il s'en va. On imagine un peu même limite fourbu, un peu boudu comme ça. Il se promène, il n'est pas content. Il sent l'huile, il sent la vieille huile de son époque. Et, ouais. Et donc du coup, c'était pour vraiment faire un contraste entre Picasso qui libère complètement la forme et Goya qui reste encore même moderne à son époque, mais qui reste quand même académique. C'était une façon de montrer justement des époques qui s'affrontent.
Non, pas. Alors là, je suis pas d'accord. Mmh. Si vous l'avez sorti comme ça, c'est intéressant, mais non, pas du tout.
Ouais, au cas où.
Moi, je dirais que si j'avais dû prendre fait et cause pour l'un des deux peintres, pour les trois, hein, je mets Dora Maar là-dedans, je mettrais Dora Maar, ensuite Goya et ensuite Picasso.
D'accord.
Dans l'ordre. Mais en même temps, ce n'était pas le but du livre. Mais en tout cas, non, Goya, il est là, c'est parce que Goya, c'est... Il se sent supérieur quelque part. L'est-il ? Je n'en sais rien, parce que l'œuvre de Picasso, elle est monumentale. Hein. C'est quand même ce qu'il a réussi à produire, à casser, ensuite à tordre, à distordre. J'évoque aussi un peu, j'évoque aussi Bacon à un moment donné. Je regrette qu'il ne soit pas là. Mais en tout cas, c'est, il ne s'agit pas de dévaloriser l'œuvre de Picasso. Mais en tout cas, je voulais. Ma sympathie va plutôt, d'ailleurs, à Goya qu'à Picasso. Et d'ailleurs, Picasso, je me fais avoir par Picasso. Puisque à la fin, je finis modèle pour un des personnages, ce qui est absurde. C'est tellement absurde. Hein, il n'a jamais fait poser des gens pour ce tableau-là. Parce que c'est l'échelle et tout. Et puis on est dans quelque chose de totalement irréaliste. Hein. Mais en tout cas, c'est bien aussi qu'on puisse. Il n'y a pas un fil limpide. Il ne fallait pas que ce soit limpide. Il fallait que ce soit libre d'interprétation pour le lecteur.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que enfin, j'étais parti à un moment juste sur le constat où cette querelle de génération, c'était juste dans le sens où c'est Goya qui regarde justement Picasso avec un certain mépris, comme vous dites à un moment. Et un peu vers la fin du texte, justement, quand vous parlez de Picasso, vous échangez justement sur l'engagement. Vous dites, vous, que vous avez donné aussi en bombe, en signe, en là, enfin... Sur la géopolitique. Et vous dites que peut-être que Picasso, s'il était encore en vie, il ferait partie justement de cette personnalité qui regarderait différemment les artistes d'aujourd'hui, qui prendrait justement des causes écologiques, politiques, tout ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de suite, comme ça, un petit peu, toujours le maître qui regarde son élève avec un petit peu d'inquiétude en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ?»
Mais en même temps, je dis clairement je l'accuse, entre guillemets, de se tromper, comme il se trompait en 53, à la mort de Staline, par exemple. Il s'est trompé comme tout le Parti communiste français, comme une grande partie de l'Occident sur Staline, en tout cas le Parti communiste. Cette forme de cécité que j'évoque, je disais que peut-être qu'aujourd'hui, il ferait partie aussi de ceux qui font preuve de cécité, par exemple. Voilà. À ce moment-là, j'ai parlé d'obscurantisme, j'ai dit que moi, j'ai traité ces sujets-là. Et là, à ce moment-là, clairement, dans mon esprit, mais c'est pas évidemment énoncé de manière très claire, volontairement, je pense que... que Picasso aurait très bien pu être un hémiplégique sur l'islamisme radical, par exemple. Ce que je reproche à la gauche actuelle, c'est qu'elle ne voit pas ou elle ne veut pas voir. Or là, il y a un vrai danger. Et ça, donc c'est un peu là-dessus aussi que je fais un petit procès d'intention à Picasso. Il n'est pas là pour me démentir, mais en tout cas, ça fait partie de toute façon, dès qu'on est dans l'engagement artistique, en tant qu'artiste, dès qu'on s'engage sur une idée, une idéologie ou un courant, on est forcément en prise et on porte à faux forcément avec une grande partie de ses contemporains.
Ouais. Et mais on reviendra peut-être après justement sur ce côté aussi politique. Et là, on pourrait peut-être parler de cette reproduction de Guernica dans ce livre où vous êtes chacun des modèles. Vous faites parler même la dame avec son enfant qui s'appelle Pablo aussi. Bon, il y a le Minotaure qui vient parfois, qui prête son portrait. Il vous parle à un moment aussi. Justement, il fait une phrase sur le fait que les hommes sont faits pour tuer les hommes et que les animaux, eux, n'ont pas justement cette envie-là ou cette ambition de s'entretuer.
Ça, c'est le taureau qui dit ça, et le Minotaure, lui, il est ailleurs. C'est moitié Picasso, moitié lui.
C'est ça.
Et puis, il pisse partout dans le musée, en plus.
Oui, c'est ça. Un moment, d'où le côté surréaliste, un moment, à la Lautréamont, où vous pensez que ce sont les larmes de Doramar, mais au final, non, bon, c'est d'autres formes de larmes, mais du Minotaure, du coup.
Oui, oui. Ouais.
Et donc, vous choisissez, oui, la place du soldat. Alors, est-ce que ça a son importance ou pas? Parce que c'est une place quand même assez intrigante. Il est en dessous, il voit pas grand-chose. D'ailleurs, vous voyez pas Goya même qui est en train d'observer la pièce, la scène, tout ça.
Non, en fait, il y avait pas beaucoup de personnages masculins finalement dans le tableau. Hein. Mm. C'est des femmes à gauche, à droite, côté jardin, côté cour. Hein. Là aussi, j'ai volontairement transposé ça comme un peu sur une scène de théâtre. Et que finalement, Picasso dirige ça comme un chef d'orchestre, comme un metteur en scène de théâtre, d'opéra, etc. Et parce que le gigantisme de l'œuvre, il est là quand même, même dans sa façon de travailler. On a des photos de lui dans son atelier. Ça devait être assez incroyable de travailler sur des formats pareils, en faisant des découpages, en plus des collages. Et donc, effectivement, le choix, tout naturellement, je me vois dans ce type qui est allongé, ce soldat, en plus, une position extrêmement inconfortable, avec un bras, essayons de la vivre, cette position, ça doit être assez intenable. Pour la femme, c'est encore pire, parce qu'elle doit avoir le cou quasiment à la verticale. Donc, elle témoigne. Et donc, ça, c'est une partie presque... C'est jubilatoire d'imaginer ça, mais c'est assez drôle d'amener des gens de l'extérieur, et finalement on se rend compte que cette femme, avec son petit Pablo, eh bien, elle a posé pour tous les grands peintres, finalement, et que même le petit Pablo, il n'arrête pas de poser pour tous les plus grands peintres. Ça veut dire que le petit Pablo ne grandit jamais. Donc on est là aussi dans ce côté un peu absurde, et en fin de compte, c'est ça la création. La création, c'est quand l'esprit se libère et quand en même temps il essaye de contenir le contenu, hein, le dedans, hein, la coque de silence. Donc tout ça, c'est... Alors, à la limite, je ne l'explique pas. Au moment où je l'ai écrit, je l'ai validé, je l'ai relu, je l'ai validé. Et la réécriture, j'aime beaucoup ça, parce que c'est une question de musique, pour moi, les mots. La langue française, en plus, c'est une des plus magnifiques que je connaisse. Et donc, voilà, l'idée, le plus important, c'est de valider une idée, donc de la garder. Et une fois qu'elle est gardée, on peut ensuite la peaufiner. Et c'est comme ça que j'ai joué sur ces aberrations, sur des oxymores, sur des choses qui s'opposent, et en même temps qui forment un tout.
D'ailleurs, vous le dites à un moment, quand Picasso il est en train d'essayer d'exécuter sa toile, qu'il a un doute. Et c'est le doute, justement, qui va faire mûrir l'artiste de s'échapper de son environnement pour faire appel à son dedans, du coup, à ses émotivités. Et voilà. Et là, par contre, Picasso, il est en difficulté, il n'y arrive pas. Et c'est Dora Maar, du coup, qui le prend en photo. C'est ce passage-là.
Oui, c'est... Alors, évidemment, sans connaître la réalité de leur vie de couple... Je sais que ça n'a pas été facile, je sais qu'il n'a pas été très élégant avec les femmes, donc c'est très facile pour moi d'imaginer ça. Et je n'ai pas voulu précisément vérifier, je n'ai pas voulu me nourrir de témoignages, d'historiens sur la vie, sa façon de vivre. J'aurais pu demander à mon copain Dan Frank, qui lui connaît très très bien, il a écrit beaucoup sur Picasso. Et volontairement, je lui ai rien dit, je lui ai rien demandé. Et donc c'est... ça fait partie, voilà. En fait, ça fait partie de la séduction que j'ai ressentie lorsqu'Alina Gourdiel m'a proposé cette idée. Et lorsque j'étais là en train d'écrire, mais je n'ai jamais été aussi heureux au moment d'une création. Pourquoi ? Parce que lorsque je porte un album ou un film ou quelque chose qui s'étale sur le temps et qui a mûri, qui mûrit avec le temps, c'est un gros travail, c'est une lourde charge et qu'il faut mener à bout. Là, ce projet, il est venu comme ça de l'extérieur, de côté, par une oreille, et j'ai dit oui. Et puis à un moment donné, il a fallu que je m'y mette. Et donc c'est presque sans m'en rendre compte, je suis rentré dans quelque chose et j'ai été le premier à vivre cette aventure. Et quelque part, je pense que avec le temps, je finirai par dire et par me dire. Je l'ai vraiment vécu.
D'accord,
ouais. Vraiment, je sais bien que non, je ne l'ai pas vécu, mais je m'en persuade quelque part, petit à petit.
Et alors justement, cette expérience bien particulière, en regardant Guernica, qui parle donc du coup de violence, pas qu'un phénomène bien particulier, celui des bombardements hitlériens, mussoliniens et franquistes, mais ça parle de violence, de destruction, de chaos, de peut-être les larmes de l'histoire de l'être humain, en fait, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez fait justement des parallèles directs avec peut-être vos œuvres à côté, là, histoire d'ouvrir un tout petit peu, vous questionnez aussi l'être humain à l'aune d'un futur post-apocalyptique, tout ça. Est-ce qu'il y a cette façon aussi de voir des parallèles? Parce que j'avais une citation de Michel Liris, par exemple, qui voyait dans le tableau de Picasso, qui disait qu'il nous renvoie notre lettre de deuil. Tout ce qu'on aime va mourir. Et Picasso lui-même, à la même période, disait que non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. effectivement, quand on regarde un peu vos BD, est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là aussi, justement, de saisir un sujet bien particulier, une histoire, mais en même temps l'ouvrir un petit peu sur la catastrophe, une catastrophe mondiale, humaine, déshumanisante, tout ça?
Oui, je pense, et c'est pour ça que c'est... c'est pour ça que on peut dire effectivement que les artistes se repassent. Alors moi, je parle de crachat, ce qui est pas très joli en soi, mais dans la logique de l'écriture du livre, ça a du sens. On se repasse quelque chose, mais surtout, je pense que c'est le monde lui-même qui nous ballotte. C'est-à-dire que Goya, à son époque, il y avait d'autres guerres, d'autres conflits. Goya, ce qui le rendait fou, et son engagement, lui, c'était contre Napoléon. Donc c'était son truc à lui, c'était de Napoléon, il avait une haine vis-à-vis de Napoléon. Picasso se retrouve tout d'un coup pris dans un chaos historique terrible avec Guernica, tout d'un coup cette révélation de ce fascisme qui monte, Mussolini et Hitler et Franco et la nuit des longs couteaux. Enfin bon, bref, on est dans cette folie-là et donc c'est ces événements-là, c'est ce monde-là qui force l'artiste à réagir. Et de la même manière, chacun artiste croit inventer quelque chose, mais il n'invente pas parce que c'est le monde qui le met en situation de se défendre. Mmh. Et en se défendant, d'inventer et d'imaginer. Donc moi, mon problème, c'est, évidemment, ce n'était pas la Seconde Guerre mondiale. Je suis né après, j'étais tout petit, j'étais en 51, je suis né... Mais par contre, moi, ma guerre, alors c'était la guerre du Vietnam, c'était des guerres choquantes, celles qu'on a vécues, mais ma guerre à moi, qui a produit l'œuvre, entre guillemets, qui pourrait se rapprocher de Guernica, mais qui est un album... qui est le sommeil du monstre. Et le sommeil du monstre, c'est mon règlement de compte, c'est mon engagement, c'est mon face à la violence de l'éclatement de la Yougoslavie et de la montée ensuite et du nationalisme et surtout, je dirais, de l'obscurantisme que peu de gens ont voulu voir dans les années 90. Personne n'a rien vu dans les Balkans sur la montée de l'obscurantisme religieux. Or, il était déjà là.
Ouais.
Et ça, c'est les événements. Et effectivement, après, on se dit, oui, finalement, j'ai fait mon Guernica, moi aussi. Mais je l'ai fait, pas 60 ans, 70 ans plus tard, après Picasso. Mais voilà, j'étais contraint en tant qu'artiste. Voilà. Alors, il y a des artistes qui s'expriment sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets. Mais quand on est vrillé, vissé au fond sur la marge du monde, moi c'est ma passion, hein. Les sociétés, la géopolitique, la façon dont le monde se constitue et se projette dans un futur, tout ça, ça fait partie de mes thèmes et je suis forcé de traiter le sujet.
D'ailleurs, je me permets de vous citer, il y a une très belle phrase dedans où vous dites toute cette emphase pour dire que notre art est perméable à la marche du monde, aux destinées souvent injustes des hommes, à la mémoire. Et c'est justement ce que vous voulez dire un peu. Voilà, une sorte de passeur.
Mais là, et c'est tellement plus simple dit comme ça, comme vous venez de le lire, c'est de moi, donc je suis très fier. Mais là, j'ai pas eu du mal, mais il faut énormément de mots pour dire quelque chose. Alors, quand on est concentré, on dit des choses parfois très justes.
Oui. Et alors, une autre question aussi. Là, ce sera plus peut-être aussi sur le musée, justement, le fait que vous êtes allé dans un musée pour voir des œuvres d'art accrochées, figées un petit peu dans le temps, même si elles font apparaître de l'histoire ancienne, même si elles sont gravées d'une certaine mémoire. À un moment, quand vous rentrez, ce qui est surprenant, c'est que vous êtes dans une prison, vous avez l'impression d'être dans une prison. Vous-même, vous regardez les noms gravés, ce sont les personnes qui ont fait cette expérience-là. L'artiste Abel Abdesemed, enfin, on les a cités, voilà. Tout ça. Et un peu plus loin aussi, à la fin, vous rajoutez votre nom dessous. Et la fin du livre, c'est quand même une libération, même si limite on vous contraint de sortir, mais une fois que vous êtes dehors, il y a une sorte de nouvelle libération. Et est-ce qu'il y a j'imagine que c'est pas anodin ce parallèle entre musée, prison, prisonnier, artiste. Est-ce qu'il y a une idée derrière ça?
Un peu, oui. C'était pas une démonstration. Je voulais me libérer parce que je pense qu'il faut la création, c'est le dehors, le dedans, mais il faut s'échapper, il faut être libre avec son dedans. Et on peut pas être libre avec un dedans qui est enfermé dans un dedans. Alors c'est ce que je pense un peu, mais le musée, c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Je crois que Lydie Salver a fait un très beau travail, un très beau livre là-dessus, dans cette collection-là. Hein. Elle a une phobie, elle n'aime pas les musées. Donc, elle explique pourquoi, et très, très bien, et c'est passionnant. Mais là, aujourd'hui, moi, même si je peux avoir des réticences sur le côté figé, enfermé, tout ce qui tourne autour de ça, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la culture me paraît tellement en danger que le musée, il faut qu'il soit là, il faut qu'il rappelle, il faut y aller dans les musées. Heureusement, les gens y vont dans les musées. Et donc, il y avait ce petit jeu, je l'ai senti effectivement. Et quelque part, le fait de marquer d'abord au début PP, de musée PP, à ce moment-là, ceux qui vont lire le livre, même en voyant Manu avec Picasso, nu avec Picasso, ils vont comprendre que c'est Pablo Picasso. Sauf que moi, non, dans ce cas-là, je ne sais pas. Pépé, à un moment donné, comme je vois ces noms gravés, qui sont des noms de prisonniers, qui sont politiques, donc j'ai dit Pépé comme prison politique. Et il me faut un petit temps, un certain temps, pour comprendre que c'est Pablo Picasso. Donc tout ça, c'est une façon de dire que finalement, la création, c'est vrai que Il faut être libre jusqu'au bout. Et donc, moi, ma libération, déjà, je suis libéré de mon état état de modèle pour Picasso, qui n'est pas confortable, parce que même quand je sors, je suis totalement difforme. Hein. Il faut que j'aille vérifier dans un miroir et que les choses se remettent en place. Voilà, j'ai encore mal un peu partout, donc je n'arrête pas d'aller voir un ostéo qui me remet encore des choses. Hein. Mais c'est un peu ça, l'idée, c'est effectivement cette libération. C'est aussi la libération pour l'artiste. Donc, je continue à être un artiste. Voilà, j'ai traversé une épreuve et je n'ai pas été piégé.
Oui, c'est un petit peu ce qu'on ressent, effectivement, quand vous sortez. Mais juste avant de sortir, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de crâne par terre, il n'y a pas de traces de sang. Donc, c'est là que ça n'a pas été une exécution d'artiste et qu'au contraire, le musée, d'une certaine façon, en ouvrant ses portes, vous, c'est vers l'extérieur. Mais en fait, il permet à des artistes de s'exprimer et d'être engagés et tout ça. Quoi.
Absolument.
Mais justement, la toute fin, alors, cette toute dernière phrase qui laisse un doute, on se demande justement si au contraire, cette expérience ne vous a pas aussi laissé une trace, si bien qu'on... c'est pas un retour à la réalité, en fait, tout pleinement. Parce que quand vous êtes trois personnes, en fait, vous dites le dehors, le dedans et vous. Et quand vous dites le dehors nous avale, mon dedans chargé d'une expérience hors norme et moi.
Et ça veut peut-être dire que l'artiste est sauf, voilà. J'ai hésité j'ai écrit cette phrase et je me suis longtemps demandé si je la laissais ou pas. Finir sur l'effluve de vétiver, voilà. Et finalement, non, je pense, voilà, c'est une façon d'affirmer que l'artiste que je suis a échappé. Alors, c'est pas un piège, mais ça aurait pu être un piège. Et peut-être finalement, et là je dépasse ma propre pensée, hein, parce que on est en train d'échanger, de discuter, peut-être que quelque part, c'est une façon de dire que les grands artistes, il ne faut pas qu'ils nous empêchent, il ne faut pas qu'ils nous bloquent, il ne faut pas qu'on se sente, comment dire, impuissant ou brimé face à leur poids. Voilà, et donc voilà, c'est une façon de m'affirmer libre par rapport à Picasso. Et des gens m'ont dit, vous êtes très courageux de vous attaquer à Picasso. Je dis, je ne me suis pas attaqué, mais si, quand même, vous osez rentrer dedans, il y a une forme de bien-pensance autour de Picasso. Bon, ça, je ne le regrette absolument pas, et c'est un peu ce que veut dire cette dernière phrase. C'est voilà, c'est une forme de liberté et de résistance d'artiste.
Surtout que oui, ça fait un appel aussi à ce que vous dites quand vous dites que Goya, vous aimeriez pas que Goya vous observe comme il observe Picasso. C'est un peu ça, justement, le poids des maîtres.
Bien sûr.
Et alors, une petite question aussi, elle est assez facile, justement. Est-ce que cette expérience, une fois digérée, comme vous dites souvent digérée, ça veut dire bon, bien mûrie, est-ce qu'elle va peut-être influencer des œuvres futures? Est-ce que c'est cette période, ce Picasso, ce noir et blanc, est-ce que ça pourrait éventuellement peut-être vous influencer ou...
Écoutez, oui, forcément, oui. Parce que ça fait partie maintenant de moi et ça sortira ou pas d'une manière ou d'une autre. Ce que je sais, c'est que déjà cette écriture que beaucoup de gens vont découvrir, parce que c'est sous forme de livre et que c'est des mots, il y a très peu de dessins, donc il n'y a pas une interaction, c'est pas la même chose du tout qu'une bande dessinée, donc... Mais par contre, je sais que cette écriture-là, je l'ai travaillée, je l'ai mûrie, et c'est faite elle-même, hein, sur des albums comme Le Sommet du Monstre, 32 décembre. Et donc, ils sont pour moi mes engagements d'artiste, d'art contemporain. Ça dépasse la bande dessinée. D'ailleurs, la bande dessinée n'a pas trop reconnu ces albums-là. Ils sont passés sous les radars de la... de la critique de la bande dessinée, parce que voilà, c'était trop différent de ce que du côté un peu peut-être classique de la BD traditionnelle. Et donc, ce sont des livres qui sont dans lesquels je me suis engagé et dans lesquels l'écriture, mon écriture, a pris forme, a pris naissance réellement. Et là, on la voit mise à nu comme ça dans un livre. Il se trouve que c'est sur cette thématique-là, puisque c'est une proposition et j'ai accepté de passer cette nuit. Donc, il n'est pas exclu du tout que je réécrive davantage, que j'écrive un roman ou un livre, toujours dans cette notion de liberté, sans dessin. C'est pas exclu du tout. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, les choses sont pas sur les rails. J'ai beaucoup d'autres projets en cours, mais je dois le dire réellement. Hein, de plus en plus, je prends du plaisir à l'écriture. Je dirais presque que, à certains moments, j'ai l'impression de préférer écrire que de dessiner. Donc, ça va surprendre. Ça va surprendre, comme ce qui a surpris aussi beaucoup de gens, c'est quand je dis à un moment donné que la mémoire visuelle est un handicap pour un artiste. Et moi, j'ai effectivement une mémoire olfactive qui est bien plus efficace que ma mémoire visuelle. Et j'en suis convaincu de ça, que la mémoire visuelle est une très bonne, trop bonne mémoire visuelle, c'est un handicap pour un artiste.
D'ailleurs, on sent cette question de l'odorat, de l'odeur qui devient quasiment haptique, quasiment tactile dans votre bouquin où à chaque fois vous faites référence. Il y a telle odeur, donc ça me fait voir telle chose. À un moment, d'ailleurs, vous dites l'odeur précède même le son et l'image. Et effectivement, il y a toute cette
question. C'est une question à poser à un spécialiste, à un scientifique, c'est à voir si l'odeur précède. Je crois pas, c'est impossible. L'image, la lumière qui va à la vitesse la plus grande.
Et voilà, c'était mes petites questions. Il y en a une, j'ai oublié de la poser, mais j'aimerais bien juste savoir. Parmi tous les personnages comme ça, Picasso, Doramar, pour qui il y a beaucoup de bienveillance aussi, mais il y a un personnage, on pourrait dire une figure plutôt, qui, elle, a grâce à vos yeux, c'est ce cheval qui il apparaît une fois. Et plusieurs temps après, justement, c'est lui qui vous... Ce sont ses cris de douleur qui vous font vous relever pour aller voir justement Guernica et après vous allez poser. Et c'est un élément qui me semble quand même assez important, même s'il est qu'à deux reprises. Alors pourquoi cette bienveillance envers ce cheval
Alors envers lui, le cheval, Aquilino, hein, il s'appelle Aquilino, envers le taureau aussi. Le Minotaure, je ne l'aime pas vraiment, hein, mais en tout cas les animaux, oui. Pourquoi ? Parce que d'une part, moi, j'aime beaucoup les animaux. J'ai un respect profond pour le règne animal. Je considère que on lui a fait beaucoup de mal à ce monde-là. On l'a trahi. Hein. Il y a une phrase, je ne sais pas qui a dit ça. L'homme est un animal qui a trahi. Je trouve que c'est assez juste et assez beau. En plus, récemment, le confinement. Alors que le livre était écrit, hein, c'est assez intéressant aussi parce que c'est un confinement d'une nuit. Hein. On est aussi dans le dehors et le dedans. Ça avait beaucoup à voir avec ces deux mois et demi de confinement. J'ai eu la chance j'ai de terrasse, donc j'ai eu la chance de voir arriver des oiseaux que je n'avais jamais vus, d'entendre des chants d'oiseaux que je n'avais jamais vus, entendus. Donc voilà, c'est le règne animal, il a commencé à reprendre ses droits un peu quelque part. Donc moi je suis conscient de tout ça et c'est un combat que je mène volontiers comme ça, sur le plan des idées. Et donc ce cheval était, en plus, les chevaux ont payé énormément dans l'histoire à cause des hommes. Ils ont été asservis par l'homme, ils ont été maltraités par les hommes, ils ont été utilisés dans des guerres de manière absolument scandaleuse, horrible. Et donc tout ça, ça fait partie un peu de ce. Et puis finalement, les animaux, ils sont morts dans les guerres sous les bombes. Donc Aquilino, le taureau sont là aussi, ils sont dans le tableau de Picasso et ils sont des victimes en même temps que les hommes, les femmes, les enfants. Et donc c'est un tout. Et donc j'avais une vraie tendresse pour ce cheval. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'exposition qui va avoir lieu, qui va commencer dans quelques jours à Landerneau, une grande exposition au fond Hélène et Édouard Leclerc, et il y aura une installation un peu dans l'esprit de Inbox de Venise, dont vous parliez tout à l'heure, avec les trois tableaux qui sont en fait partie des dessins du livre, à savoir la jeune femme qui hurle, qui essaie d'être le modèle de la femme avec le bébé, donc le Pablo, Aquilino, le cheval, qui essaie aussi de hurler, d'avoir la tête à la verticale comme le dessin de Picasso, et moi-même, qui suis le soldat allongé dans une forme absolument déformée au sol. Et je vais avoir des voix qui vont, des voix de comédiens de la Comédie française, qui vont témoigner de leur expérience. Alors, ce sera le texte un peu revu et corrigé, et qui seront, ce sont des voix qui sont orientées sur les personnes qui seront devant le tableau. Donc, chaque fois qu'on est devant un des trois tableaux, on a le témoignage, soit de la femme, soit du cheval, soit de moi-même.
D'accord.
Donc, on aura cette, alors évidemment, avec ce côté décalé, puisque je pense que la femme elle va dire à la fin, j'espère que je serai ressemblante. Voilà. J'ai souffert énormément pour poser, mais j'espère que je serai ressemblante. Elle va être très déçue. Elle a dû être très déçue. Mais en tout cas, c'est ça l'idée aussi, c'est de créer des continuités comme ça.
Des liens, ouais. Ok. Eh bien, merci.